Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Jonathan Harker, 18 mai. J'ai voulu revoir cette chambre en plein jour, car je dois à tout prix connaître la vérité. Quand j'arrivais à la porte, au-dessus de l'escalier, je la trouvais fermée. On avait essayé de la remettre en place contre le montant, la boiserie était même abîmée. Je m'aperçus que le verrou n'était pas mis, mais que la porte était fermée de l'intérieur. Je crains donc de ne pas avoir rêvé, et dorénavant, il me faudra agir en partant de cette quasi-certitude. Assurément, je suis pris dans les filets du comte. Inutile d'espérer encore pouvoir m'en échapper. Hier soir, il m'a demandé, sur son ton le plus charmant, d'écrire 3 lettres. L'une d'entre elles disant que j'avais presque terminé mon travail ici et que je repartirais dans quelques jours. L'autre que je repartais le lendemain même, la troisième enfin que j'avais quitté le château et que j'étais arrivé à Bistritz. J'eus fort envie de me révolter contre une telle contrainte, mais d'autre part, je sentais qu'il eût été fou de discuter la volonté du comte puisque j'étais absolument en son pouvoir. Et refuser de lui obéir, c'eût été sans doute faire naître en lui des soupçons et le mettre en colère. Déjà, il sait que j'en sais trop, et que si je vis, je peux être dangereux pour lui. Ma seule chance, s'il existe encore une chance, consiste à essayer de prolonger la situation actuelle. Peut-être une occasion ou l'autre se présentera-t-elle qui me permettra malgré tout de m'évader. Je vis ses yeux se remplir de cette fureur qui y brillait quand, d'un geste brusque, il avait repoussé cette belle et étrange créature. Et il m'expliqua que les services de poste étaient fort irréguliers et que mes lettres rassuraient mes amis. Puis il me dit que, pour ce qui était de la dernière lettre, il la ferait garder à Bistritz jusqu'à la date où je devrais réellement partir, à supposer que mon séjour se prolongeât. Il me dit avec une telle conviction que m'opposer à lui sur ce point n'eût fait que provoquer de nouveaux soupçons. Je feignis donc de l'approuver, et je lui demandai quelle date je devais inscrire sur mes lettres. Ayant réfléchi un moment, il me répondit « Datez la première du 12 juin, la deuxième du 19 et la troisième du 29. » Je sais maintenant le temps qu'il me reste à vivre. Dieu me protège. 28 mai. Peut-être trouverai-je le moyen de m'échapper, ou au moins d'envoyer des nouvelles chez moi. Des Tziganes sont venus au château. Ils campent dans la cour. Je vais écrire quelques lettres, puis j'essaierai de les leur donner afin qu'ils les mettent à la poste. Je leur ai déjà parlé de ma fenêtre. Nous avons fait connaissance. Ils se sont découverts en s'inclinant profondément et m'ont fait toutes sortes d'autres signes que je ne comprends pas plus, je l'avoue, que ce qu'ils disent. Ces lettres sont prêtes. Celle pour Mina est sténographiée et, quant à Monsieur Hawkins, je lui demande simplement de se mettre en rapport avec Mina. Je l'ai mise au courant de ma situation sans toutefois lui parler des horreurs que, somme toute, je ne fais encore que soupçonner. Elle mourrait de peur si je lui dévoilais toutes mes craintes. Ainsi, si même les lettres n'arrivent pas à destination, le comte ne pourra pas se douter à quel point j'ai pénétré ses intentions. J'ai donné les lettres. Je les ai jetées, accompagnées d'une pièce d'or, d'entre les barreaux de ma fenêtre, et, par signe, j'ai fait comprendre aux Tziganes que je leur demandais de les mettre à la poste. Celui qui les a prises les a pressées contre son cœur en s'inclinant plus encore que de coutume, puis les a placées sous son chapeau. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Je n'avais plus qu'à attendre. J'allais dans la bibliothèque où je me mis à lire. Puis, comme le comte ne venait pas, j'ai écrit ces lignes. Pourtant, je ne suis pas restée longtemps seule. Le comte est venu s'installer près de moi et m'a dit d'une voix très douce, cependant qu'il ouvrait deux lettres. Les Tziganes m'ont remis ses plis. Bien que j'ignore d'où ils viennent, j'en prendrai soin, naturellement. Voyez, il avait donc dû les examiner. Celui-ci est de vous, adressé à mon ami Peter Hawkins. L'autre, en ouvrant la seconde enveloppe, il considéra les caractères insolites et il prit son air le plus sombre, et ses yeux brillèrent d'indignation et de méchanceté à la fois. L'autre représente à mes yeux une chose odieuse. Il trahit une amitié hospitalière. Et de plus, il n'est pas signé. Donc, au fond, il ne peut pas nous intéresser. Avec le plus grand calme, il approcha de la lampe la feuille et l'enveloppe, les présentant à la flamme jusqu'à ce qu'elle fût entièrement brûlée. Il reprit alors. « La lettre à Hawkins, celle-là, bien entendu, je l'enverrai, puisque c'est vous qui l'avez écrite. Vos lettres sont pour moi chose sacrée. Vous voudrez bien, n'est-ce pas, mon ami, me pardonner de l'avoir ouverte. J'ignorais de qui elle était. Vous allez la remettre sous enveloppe, j'espère. » Et, s'inclinant courtoisement, il me tendit la lettre avec une nouvelle enveloppe. Je ne pouvais, en effet, que rédiger à nouveau l'adresse et lui remettre le tout sans faire la moindre remarque. Lorsqu'il me quitta, dès qu'il eut refermé la porte, j'entendis la clé tourner doucement dans la serrure. Je laissai passer quelques instants, puis j'allais essayer d'ouvrir la porte. Elle était fermée à clé. Quand une ou deux heures plus tard, le comte, toujours très calme, rentra dans la bibliothèque, je me réveillai en sursaut, car je m'étais endormie sur le sofa. Le constatant, il me dit sur un ton très poli et enjoué à la fois, « Vous êtes fatigué, mon ami, mais allez donc vous mettre au lit, c'est là que l'on se repose le mieux. D'ailleurs, je n'aurai pas le plaisir de faire la conversation avec vous ce soir, car j'ai beaucoup de travail. Mais allez dormir, je vous prie. » Je passai dans ma chambre, me couchai, et aussi étrange que cela puisse paraître, je dormis paisiblement, sans rêver. Le désespoir porte en lui son propre calmant. 31 mai. Ma première pensée, ce matin, en m'éveillant, fut d'aller prendre quelques feuilles de papier et des enveloppes dans mon sac de voyage, de les mettre en poche afin de pouvoir écrire si j'en avais l'occasion à un moment quelconque de la journée. Mais, nouvelle surprise, nouveau choc. Tous mes papiers avaient disparu, du plus insignifiant jusqu'à ceux qui m'étaient nécessaires et indispensables pour mon voyage, une fois que j'aurais quitté le château. Je réfléchis un moment, puis je songeais à aller ouvrir ma valise et la garde-robe où j'avais rangé mes vêtements. Le costume que je portais pour voyager n'était plus là, ni mon pardessus, ni ma couverture de voyage. J'eus beau chercher, je n'ai trouvé nulle part. Quelle machination tout ceci cache-t-il encore ? 17 juin. Ce matin, alors que j'étais assis sur le bord de mon lit à me mettre martel en tête, j'entendis claquer des fouets au dehors et résonner des sabots de chevaux sur le sentier rocailleux qui mène à la cour du château. Le cœur battant de joie, je me précipitai à la fenêtre et je vis deux grandes charrettes qui entraient dans la cour, l'une et l'autre tirées par 8 chevaux robustes et menées par un Slovaque en costume national, sans oublier la peau de mouton, et portant la longue hache. Faisant aussitôt demi-tour, je courus vers la porte dans l'intention de descendre et de tenter de les rejoindre près de l'entrée principale, car, me disais-je, on avait dû leur ouvrir de ce côté. Et de nouveau un choc. De l'extérieur, on avait fermé ma porte à clé. Je retournai à la fenêtre et criai. Tous levèrent la tête et regardèrent, stupéfaits et me montrant du doigt. Mais à ce moment, arriva le chef des Tziganes. Voyant que l'attention générale se portait sur ma fenêtre, il lança je ne sais quel mot qui lui fit tous s'éclater de rire. Dès lors, tout effort de ma part fut vain et tout appel à la pitié. Personne ne leva même plus les yeux vers moi. Les charrettes amenaient des grandes caisses carrées dont les poignées étaient faites de cordes épaisses. À voir la facilité avec laquelle les Slovaques les maniaient et à entendre le bruit qu'elles faisaient quand ils les laissaient tomber sur le pavé, on devinait qu'elles étaient vides. Lorsque toutes furent mises en tas dans un coin de la cour, les Tziganes donnèrent aux Slovaques quelque argent, et ceux-ci, après avoir craché sur des pièces afin de s'attirer la chance, retournèrent d'un pas lent près de leurs chevaux. À mesure qu'ils s'éloignaient, j'entendais de plus en plus faiblement les claquements de leurs fouets. 24 juin, un peu avant l'aube. Le comte m'a quitté assez tôt hier soir et s'est enfermé dans sa chambre. Dès qu'il m'a paru possible de le faire sans courir trop de risques, j'ai gravi en toute hâte l'escalier en colimaçon, dans l'intention de guetter le comte par la fenêtre qui donne au sud. Je suis en effet certain qu'il se passe quelque chose. Les Tziganes campent je ne sais où, à l'intérieur du château, et sont occupés à quelque travail. Je le sais, car de temps à autre, j'entends un bruit lointain, étouffé, comme le bruit d'une pioche, une brèche peut-être, et quoi que ce soit, il s'agit évidemment d'une affaire criminelle. J'étais à la fenêtre depuis près d'une demi-heure quand je vis comme une ombre d'abord remuer à la fenêtre du comte, puis commencer à sortir. C'était le comte lui-même qui, bientôt, se trouva complètement au dehors. Une fois de plus, ma surprise fut grande. Il était vêtu du costume que je portais pendant mon voyage et il avait jeté sur ses épaules l'horrible sac que j'avais vu disparaître en même temps que les 3 jeunes femmes. Je ne pouvais plus avoir de doute quant au but de sa nouvelle expédition, et de plus, pour ce faire, il avait voulu plus ou moins prendre mon apparence. C'était encore un tour de son extrême malice. Il s'arrangeait de telle sorte que les gens croient me reconnaître. Ainsi, il pourrait prouver que l'on m'avait vu mettre mes lettres à la poste en ville, ou dans un ou l'autre des villages environnants, et toute vilenie dont il se rendrait désormais coupable me serait de fait attribuée par les habitants de l'endroit. J'enrage à la pensée que toutes ces manigances continuent alors que je suis enfermé ici, véritable prisonnier, sans même la protection que la loi accorde aux vrais criminels. Je décidai alors d'attendre le retour du comte et je restai longtemps à la fenêtre. Pour rien au monde, je n'aurais voulu m'en éloigner. À un moment donné, je remarquai des petites taches bizarres qui dansaient sur les rayons du clair de lune. On eût dit de minuscules grains de poussière qui tourbillonnaient et se rassemblaient parfois en une sorte de nuage. Tandis que mon regard s'attachait sur eux, j'éprouvais comme un apaisement. Je m'appuyais contre l'embrasure de la fenêtre, cherchant une position plus confortable pour mieux jouir de ce spectacle. Quelque chose me fit sursauter. Des hurlements sourds et plaintifs de chiens montant de la vallée que je ne distinguais plus. Peu à peu, je les entendis plus clairement, et il me sembla que les grains de poussière prenaient de nouvelles formes en s'accordant à cette rumeur lointaine, tandis qu'ils dansaient sur les rayons faiblement lumineux. Moi-même, je m'efforçais d'éveiller au plus profond de moi des instincts assoupis. Bien plus, c'était mon âme qui luttait et essayait de répondre à cet appel. J'étais hypnotisé. Les grains de poussière dansaient de plus en plus vite, les rayons de la lune semblaient trembler près de moi, puis allaient se perdre dans l'obscurité. Eux aussi, en se rassemblant, prenaient des formes de fantômes. Puis, tout à coup, je sursautais à nouveau, tout à fait éveillé et maître de moi, et je m'enfuis en criant. Ces formes fantomatiques qui peu à peu se détachaient des rayons du clair de lune, je les reconnaissais. C'étaient ces femmes elles-mêmes auxquelles le sort désormais me liait. Je m'enfuis et une fois dans ma chambre, je me sentis un peu rassurée. Ici, les rayons de la lune ne pénétraient pas et la lampe éclairait jusqu'au moindre recoin de la pièce. Au bout de 2 heures environ, j'entendis dans la chambre du comte comme un vagissement aigu aussitôt étouffé. Puis plus rien, un silence profond, atroce, qui me glaça le cœur. Je me précipitai à la porte pour l'ouvrir. Mais j'étais enfermé dans une prison et totalement impuissant. Je m'assis sur mon lit et me mis à pleurer. C'est alors que j'entendis un cri au dehors, dans la cour, le cri douloureux que poussait une femme, la chevelure en désordre et les deux mains sur son cœur, comme si elle n'en pouvait plus d'avoir couru. Elle était appuyée contre la grille. Quand elle me vit à la fenêtre, elle a couru en criant d'une voix chargée de menaces. « Monstre, rendez-moi mon enfant !» Puis, se jetant à genoux et levant les mains, elle répéta les mêmes mots sur un ton déchirant. Alors, elle s'arracha les cheveux, se battit la poitrine, s'abandonna aux gestes les plus extravagants que lui inspirait sa douleur. Enfin, elle s'approcha de la façade, s'y jeta presque, et bien que je ne pusse plus voir, j'entendis ses poings tambouriner sur la porte d'entrée. Au-dessus de moi, venant sans doute du haut de la tour, j'entendis alors la voix du comte. Il appelait d'un murmure rauque qui avait quelque chose de métallique, et au loin, le hurlement des loups semblait lui répondre. Quelques minutes plus tard, à peine, une bande de ces loups envahissait la cour avec la force impétueuse des eaux quand elles ont rompu un barrage. La femme ne poussa aucun cri, et les loups cessèrent presque aussitôt de hurler. Je ne tardai pas à les voir se retirer l'un à la suite de l'autre en se pourléchant les babines. Je n'arrivais pas à plaindre cette femme, car, comprenant maintenant le sort qui avait été réservé à son enfant, je me disais qu'il valait mieux qu'elle l'eût rejoint dans la mort. Que vais-je faire? Que pourrais-je faire? Comment échapper à cette longue nuit de terreur? 25 juin, au matin. Pour qu'un homme comprenne à quel point le matin peut être doux à son cœur et à ses yeux, il faut que la nuit lui ait été cruelle. Quand les rayons du soleil, ce matin, ont frappé le sommet de la grille, juste devant ma fenêtre, j'ai eu l'impression que c'était la colombe de l'arche qui s'y posait. Mes craintes se sont alors dissipées comme si un vêtement vaporeux avait fondu à la chaleur. Je dois me décider à agir tant que la clarté du jour m'en donne le courage. Hier soir, une de mes lettres est partie, la première de cette série fatale qui doit effacer de la terre jusqu'aux traces de mon existence. Il vaut mieux ne pas trop y penser, mais agir. C'est toujours le soir ou pendant la nuit que j'ai senti peser sur moi des menaces, que, d'une ou l'autre façon, je me suis cru en danger. Et, depuis mon arrivée ici, je n'ai pas encore vu le comte dans la journée. Est-ce qu'il dort quand les autres veillent? Est-ce qu'il veille quand les autres dorment? Si je pouvais entrer dans sa chambre. Mais c'est impossible. Sa porte est toujours fermée à clé. Il n'y a aucun moyen. Si, il y a un moyen. Encore faut-il oser l'employer. Là où le comte lui-même passe, pourquoi un autre que lui ne passerait-il pas? Je l'ai vu sortir de sa fenêtre en rampant. Pourquoi n'entrerais-je pas, moi, par sa fenêtre? L'entreprise est sans doute désespérée, mais la situation où je me trouve est plus désespérée encore. Je vais m'y risquer. La chose la plus terrible qui puisse m'arriver, c'est de mourir. Or, la mort d'un homme n'est pas celle d'un animal, et la vie éternelle me sera peut-être donnée. Que Dieu m'assiste. Adieu, Mina, si je ne dois pas revenir. Adieu, mon ami fidèle qui êtes pour moi un second père. Adieu, vous tous, enfin, et encore une fois, Mina, adieu. Le même jour, un peu plus tard. J'ai donc été là-bas, et Dieu m'aidant, je suis revenue sain et sauf dans ma chambre. J'expliquerai tout en détail. Alors qu'un grand élan de courage m'y poussait, je me dirigeais vers cette fenêtre donnant sur le sud, et tout de suite, je me suis hissée sur l'étroit rebord de pierre qui, de ce côté, court tout le long du mur. Les pierres sont énormes, très grossièrement taillées, et le mortier, dans les interstices, je l'ai dit, a le plus souvent disparu. Une fois mes souliers ôtés, je suis partie à l'aventure. L'espace d'un instant, j'ai baissé les yeux afin de m'assurer que je n'aurais pas le vertige s'il m'arrivait de plonger mes regards dans le vide, mais par la suite, j'ai eu soin de regarder devant moi. Je savais parfaitement où se trouvait la fenêtre du comte, que j'atteignis aussi vite que je pus. À aucun moment je ne fus pris de vertige. Sans doute étais-je trop excitée pour y céder. Et en un temps qui me parut très court, je me trouvais sur le rebord de la fenêtre à guillotine, essayant de la lever. Pourtant, j'étais fort agitée lorsque, me courbant et les pieds en avant, je me glissais dans la chambre. Des yeux, je cherchais le comte. Mais je fis une heureuse découverte. Il n'était pas là. La chambre était à peine meublée. Il y avait seulement quelques meubles mal assortis qui semblaient n'avoir jamais servi. Ils étaient couverts de poussière et certains étaient du même style que ceux des appartements de l'aile sud. Tout de suite, je songeai à la clé, mais je ne la vis pas dans la serrure et je ne la trouvais nulle part. Mon attention fut attirée par un gros tas de pièces d'or dans un coin, des pièces roumaines, anglaises, autrichiennes, hongroises, grecques, couvertes elles aussi de poussière comme si elles se trouvaient là depuis fort longtemps. Toutes étaient vieilles au moins de 300 ans. Je remarquai également des chaînes, des bibelots, certains même sertis de pierres précieuses, mais le tout très vieux et abîmé. Je me dirigeai alors vers une lourde porte que j'aperçus dans un coin. Puisque je ne trouvais ni la clé de la chambre ni celle de la porte d'entrée, qui, il ne faut pas l'oublier, était le principal objet de mes recherches, je devais poursuivre mon exploration, sinon toutes les démarches que je venais d'accomplir auraient été vaines. Cette porte était ouverte et donnait accès à un couloir au mur de pierre qui lui-même conduisait à un escalier en colimaçon, fort abrupt. Je descendis en prenant beaucoup de précautions, car l'escalier n'était éclairé que par deux meurtrières pratiquées dans l'épaisse maçonnerie. Arrivé à la dernière marche, je me trouvai dans un nouveau couloir obscur, un vrai tunnel, où régnait une odeur âcre qui évoquait la mort, l'odeur de vieille terre que l'on vient de remuer. Tandis que j'avançais, l'odeur devenait plus lourde, presque insupportable. Enfin, je poussai une autre porte très épaisse qui s'ouvrit toute grande. J'étais dans une vieille chapelle en ruine, où cela ne faisait aucun doute, des corps avaient été enterrés. Le toit tombait par endroits, et de deux des côtés de la chapelle, des marches conduisaient à des caveaux. Mais on voyait que le sol avait été récemment retourné, et la terre mise dans de grandes caisses posées un peu partout. Celle sans doute qu'avaient apporté les Slovaques. Il n'y avait personne. Aussi continuai-je mes recherches. Peut-être existait-il une sortie dans les environs? Non, aucune. Alors j'examinai les lieux plus minutieusement encore. Je descendis même dans les caveaux où parvenait une faible lumière, encore que mon âme elle-même y répugna. Dans les deux premiers, je ne vis rien, sinon des fragments de vieux cercueils et des monceaux de poussière. Dans le troisième, pourtant, je fis une découverte. Là, dans une des grandes caisses posées sur un tas de terre fraîchement retournée, gisait le comte. Était-il mort ou bien dormait-il? Je n'aurais pu le dire, car ses yeux étaient ouverts, on aurait dit pétrifiés, mais non vitreux comme dans la mort, et les joues, malgré leur pâleur, gardaient la chaleur de la vie. Quant aux lèvres, elles étaient aussi rouges que d'habitude. Mais le corps restait sans mouvement, sans aucun signe de respiration, et le cœur semblait avoir cessé de battre. Je me penchai, espérant malgré tout percevoir quelques signes de vie, en vain. Il ne devait pas être étendu là depuis longtemps. L'odeur de la terre était encore trop fraîche. Après quelques heures, on ne l'aurait plus senti. Le couvercle de la caisse était dressé contre celle-ci et percé de trous par-ci par-là. Je me dis que le comte gardait peut-être les clés dans une de ses poches, mais comme je m'apprêtais à le fouiller, je vis dans ses yeux, bien qu'ils fussent éteints et inconscients de ma présence, une telle expression de haine que je m'enfuis aussitôt, regagnai sa chambre, repassai par la fenêtre et remontai en rampant le long du mur. Une fois dans ma chambre, je me jetai tout essoufflé sur mon lit et j'essayai de rassembler mes idées.
Thank you.